Et comme tous les soirs, c'est Amélie Perrier qui commence. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec nos plus vieilles années.
S'occuper de nos seniors dans les années à venir, du travail pour 80 000 salariés, mais du travail qui ne fait pas assez envie, dit le rapport sur la dépendance rendu aujourd'hui au gouvernement. Bayer a-t-il vraiment eu raison d'acheter Monsanto ? La firme est condamnée pour la deuxième fois là. Elle va devoir verser 80 millions de dollars à un retraité américain malade d'un cancer à cause de son désherbant. Yacine Bellatar mise en examen, l'humoriste est poursuivi pour menace de mort, fini de rire. Et puis le photographe JR veut faire apparaître la pyramide du Louvre à Paris pour le 30e anniversaire du monument avec l'aide de 400 bénévoles.
À 18h15, un jour dans le monde, nous allons en Ukraine ce soir qui vote dimanche. L'Ukraine qui peut-être va élire un comédien qui joue un président à l'écran. Étonnantes élections, on en parle avec la première invitée d'un jour dans le monde ce soir. Nous allons aussi au Japon dans la communauté LGBT dont on parle très rarement dans cette partie du monde. 19h20, le téléphone sonne. Nous aussi, Amélie, on va parler grand âge, très grand âge et dépendance. Comment la financer, cette dépendance, faire en sorte que les plus vieux puissent rester chez eux, que les aides à domicile soient mieux rémunérées. Le rapport sur la dépendance, vous le savez, a été remis. Vous allez en parler dans quelques instants. Et nous, on attend vos questions au 01 45 24 7000. Du baby boom donc au papy boomer.
C'est une génération qui pèse sur la France et qui va lui coûter de plus en plus cher à l'avenir. Un rapport a été remis aujourd'hui au gouvernement sur la prise en charge des aînés, de la dépendance. Et les chiffres donnent le vertige. Il va falloir augmenter les dépenses publiques de 35% d'ici une dizaine d'années pour prendre en charge les baby boomers qui entrent donc dans le grand âge. Et pour s'occuper d'eux, le rapport estime qu'il va falloir aussi embaucher 80 000 professionnels dans les maisons de retraite. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir Amélie.
Beaucoup d'emplois à la clé donc, mais le problème c'est que ce ne sont pas des emplois qui attirent beaucoup aujourd'hui.
Oui, le secteur est en pleine crise des vocations aujourd'hui. 60% des EHPAD ont un poste non pourvu depuis au moins 6 mois. Du côté des aides à domicile, ce n'est pas mieux. Il manque 10 à 20% des postes à l'heure actuelle. Et les raisons de cette crise, elles sont multiples. La première, eh bien, c'est l'argent tout simplement. Romain Gisol me dirige l'ADPA, c'est une association de dirigeants d'EHPAD et de services à domicile.
Ça fait très longtemps que les salaires dans l'aide à domicile n'ont pas été valoriser. Aujourd'hui, dans l'aide à domicile, le salaire moyen est inférieur au SMIC. Donc il convient d'urgemment revaloriser les salaires et notamment dans l'aide à domicile.
Il y a aussi le besoin de travailler dans de meilleures conditions avec moins de stress, des journées plus courtes. La députée de Loire-Atlantique, Audrey Dufay-Schubert, a participé à la création de ce rapport.
Ce sont des métiers extrêmement riches humainement, mais extrêmement difficiles et complexes. On a des taux d'accidents de travail, je crois, 2 fois supérieurs à celui du bâtiment. Donc le bâtiment a réussi à relever un petit peu ce challenge et d'améliorer les conditions d'exercice. On doit faire pareil sur cette filière soignante, avec toute la complexité émotionnelle autour de l'activité au quotidien.
Enfin, il est aussi question d'un changement de mentalité plus global. Aujourd'hui, s'occuper des personnes âgées n'est pas encore suffisamment considéré dans notre société. Tous ces sujets feront en tout cas l'objet d'une mission de concertation lancée dans les prochains jours par la ministre de la Santé.
Merci beaucoup Lisa Guyenne. Et la ministre Agnès Buzyn a l'intention de présenter à l'automne sa grande loi sur la dépendance qui s'inspirera donc de ce rapport et de cette mission. Du grand âge à la jeunesse, le président Macron lui débat en ce moment avec des enfants à Beaupréau en Mauges, une commune entre Nantes et nouvelle étape du grand débat national et l'occasion pour les salariés d'Arjo-Wiggins, les papeteries menacées dans la Sarthe, de manifester bloquant les trains à Angers. La liquidation judiciaire est redoutée demain au tribunal de commerce de Nanterre. En marche pour conquérir Paris après son départ du gouvernement, l'ex-porte-parole Benjamin Griveaux officialise ce soir sa candidature pour porter les couleurs de la REM lors des élections municipales dans la capitale, c'est l'an prochain. Il réunit ses soutiens dans un café sur la place de la République. Il va devoir ferrailler avec son ancien collègue du gouvernement, Mounir Majoubi, avec également le député mathématicien Cédric Villani, le sénateur Hugues Ranson ou encore l'élu du 4e arrondissement, Anne Le Breton. L'objectif de Nicolas Dupont-Aignan, ce sont là les élections européennes du 26 mai prochain. Le souverainiste, en perte de vitesse dans les sondages, a présenté sa liste aujourd'hui. Élodie Forêt, vous y étiez. Bonsoir.
Bonsoir.
La stratégie de Debout la France et de son patron, c'est de miser, entre autres, sur les gilets jaunes ?
Oui, au moins sur un gilet jaune. Benjamin Cauchy, numéro 9 de la liste des 23, c'est la figure la plus connue. Benjamin Cauchy, sorti des ronds-points, dit-il, pour rejoindre l'arène politique.
Soit on reste dans la rue et malheureusement on perd la sympathie de l'opinion publique, nos revendications ne sont plus entendues, ou alors on décide de renverser la table mais avec le jeu démocratique et avec les urnes.
Un gilet jaune donc, mais la liste brille surtout par ses absents, notamment Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate, allié de Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan expédie la question.
J'ai fait un choix et Jean-Frédéric Poisson s'est exclu de lui-même de la démarche collective des amoureux de la France en voulant faire une liste dans notre dos et c'était pas compatible avec l'éthique et la nôtre.
Une version démentie par Jean-Frédéric Poisson, selon qui NDA n'aurait en fait pas tenu sa promesse de lui donner la cinquième place. Nicolas Dupont-Aignan, de plus en plus isolé, donc avec peu de moyens financiers, les banques refusant de lui prêter. Son directeur de campagne, Thomas Ménager.
Le service minimum est assuré. Actuellement, nous cherchons en fait ce qui va nous permettre de faire une campagne plus importante, aller deux fois plus sur le terrain, imprimer encore plus. On considère que nos idées méritent d'être développées dans une campagne sur tout le territoire. Et aujourd'hui, on cherche ce petit supplément financier qui nous permettra d'aller au contact de Français de manière plus importante.
Un petit supplément d'1 million d'euros tout de même, c'est ce que NDA espère toujours obtenir auprès des banques.
Élodie Forêt, service politique de France Inter, merci. L'environnement, enjeu fort du scrutin européen, surtout quand l'on découvre ce genre d'informations grâce à un rapport de l'UFC Que Choisir aujourd'hui. Plus de 2 millions de consommateurs sont alimentés par de l'eau potable polluée aux pesticides ou aux nitrates. L'eau du robinet reste quand même buvable pour une grande majorité des Français, mais les pesticides sont massivement présents dans les cours d'eau français, on y reviendra dans le journal de 19h. Les pesticides qui coûtent cher à Bayer, le groupe allemand a racheté Monsanto. Or, l'entreprise qui fabrique le Roundup vient d'être condamnée en justice pour la deuxième fois. Là, aux États-Unis, Monsanto va devoir payer 80 millions de dollars d'indemnisation à un retraité malade d'un cancer, cancer provoqué apparemment par le Roundup. Il l'a utilisé pour désherber sa propriété de Californie pendant plus de 25 ans. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Amélie.
En direct de Berlin. De quoi faire regretter donc cette condamnation à Bayer, le rachat de la firme américaine.
Les décisions de justice s'accumulent en effet depuis 10 jours et le premier volet de cette condamnation. Jusqu'à ce soir, le second volet, l'action Bayer dégringole moins 18%. Mais depuis que le groupe allemand a déboursé 55 milliards d'euros pour racheter Monsanto au mois de juin l'an dernier, le titre Bayer a en réalité perdu près de 45% de sa valeur à la bourse de Francfort. N'importe qui pourrait penser en effet que ce rachat n'était pas une bonne idée. Un rachat qui par ailleurs a été le plus coûteux de l'histoire d'une entreprise étrangère rachetée par une entreprise allemande. Mais ce n'est pas l'avis de Werner Baumann, le patron de Bayer, pour qui c'était et ça reste une bonne idée, disait-il, pas plus tard que dimanche dernier dans une interview au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il y a même encore plus de 11 000 plaintes de ce genre aux États-Unis et il le sait bien, mais il reste convaincu de la non-dangerosité du glyphosate quand il est, dit-il, utilisé comme indiqué. Le patron de Bayer, numéro 1 mondial des semences, des engrais et des pesticides depuis le rachat de Monsanto, a mis tout de même pas loin d'1 milliard d'euros de côté au cas où la justice ne serait pas de son avis.
Quand même, merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. À l'étranger encore, la date officielle du Brexit c'était demain, le 29 mars, mais le calendrier a été largement bouleversé dans ce feuilleton sans fin. Demain, vendredi 29 mars, le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union Européenne. En revanche, ses députés voteront encore une troisième fois sur l'accord de divorce. La chef du gouvernement Theresa May a promis de démissionner hier si le Parlement ratifiait enfin le texte de sortie. L'Europe a un Eldorado pour des migrants prenant tous les risques. Une centaine de candidats à l'exil ont détourné un pétrolier hier qui les avait secourus en Méditerranée pour ne pas être amenés en Libye. Le pétrolier a finalement accosté aujourd'hui à Malte après l'intervention d'un commando de la marine maltaise. Des militaires russes au secours du régime de Maduro au Venezuela. Le Kremlin avertit qu'ils resteront aussi longtemps que nécessaire. Hier, le président américain lançait « La Russie doit partir » au moment où il recevait à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, l'épouse de Juan Guaido, opposant à Nicolas Maduro.
Il est 18h09 sur France Inter. Amélie, retour en France et fini de rire pour Yacine Bellata.
L'humoriste et animateur radio est mis en examen pour menace de mort et harcèlement moral. Il faisait l'objet d'une plainte du producteur et comédien Bruno Gassiot, l'ancien auteur des Guignols de l'Info. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Amélie.
Alors on vient d'avoir l'information, que lui reproche-t-on en fait ?
Alors oui, l'humoriste et polémiste avait été placé mardi soir en garde à vue, vous l'avez dit, suite à une plainte déposée le 24 janvier par Bruno Gassiot, l'auteur historique des Guignols, affirme avoir été menacé de mort au téléphone par Yacine Bellatar. L'enquête préliminaire avait mis au jour d'autres accusations similaires, notamment dans son entourage professionnel. Une animatrice de la chaîne C-Star, Jessie Claire, a d'ailleurs annoncé également qu'elle portait plainte pour harcèlement et menace. Yacine Bellatar est donc mise en examen par un juge d'instruction pour menace de mort matérialisée par un écrit ou une image, menace de crime réitéré, envoi réitéré de messages malveillants et harcèlement moral. Il a été laissé libre, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les plaignants et les témoins entendus dans la procédure. Animateur sur Radio Nova, ex-chroniqueur de LCI, nommé par le président Macron au Conseil présidentiel des villes, souvent invité dans les médias comme un porte-parole des banlieues et de la communauté musulmane, Yacine Bellatar a toujours alimenté la controverse à coups de clash, notamment sur les réseaux sociaux. À Mediapart, il avait d'ailleurs concédé qu'il lui arrivait de menacer des gens, c'est un fait, mais n'être jamais passé à l'acte.
Les précisions de Corinne Audouin, merci beaucoup. Pas toujours si solides les murs des prisons. Image plutôt rare de la centrale de Poissy dans les Yvelines. Un mur d'enceinte s'est effondré sur une trentaine de mètres ce matin. Pas de blessés, mais des questions. L'incident s'est produit alors que des travaux ont été réalisés sur la structure récemment. La revue Afrique contemporaine a-t-elle été victime de censure? Cette publication française est sous la tutelle de l'Agence française de développement, l'AFD. Et ces derniers jours, son rédacteur en chef et une partie de son conseil scientifique ont démissionné. Claude Guibal, vous nous avez rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors la cause de ces départs, c'est un dossier sur le conflit malien prévu dans le prochain numéro. Il a été suspendu ce dossier.
Dossier au contenu apparemment trop polémique pour l'AFD qui a effectivement demandé des modifications avant d'en suspendre la parution. D'où ces démissions en chaîne pour protester contre ce qui est perçu comme une volonté d'influencer le contenu scientifique de cette revue. Pour Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH et dont l'enquête a servi d'appui à un de ses articles, c'est une ingérence insupportable.
Cette histoire, c'est celle d'une structure qui cherche à contrer un discours critique, notamment dans deux articles. L'un qui critique le caractère très militariste de l'intervention française, et puis un deuxième article qui dénonce les exactions des djihadistes, des milices, mais également de l'armée malienne.
Alors, à l'AFD, on s'insurge, on réfute l'accusation de censure. Thomas Mélogneau, directeur de la rédaction d'Afrique contemporaine.
Il n'a jamais été question d'interdire à qui que ce soit de s'exprimer. En revanche, ce que nous avons dit, c'est que dès lors qu'un point de vue très tranché, polémique, relevant de la controverse scientifique, était exprimé, il fallait des contrepoints pour qu'il y ait du pluralisme. C'est dans le cadre de ce processus éditorial que nous avons eu un différend pour que des points de vue complémentaires soient apportés. Encore une fois, il n'a jamais été question ni de censure, et encore moins de ne pas publier des articles qui avaient été validés scientifiquement.
Une polémique cependant révélatrice de la tension perceptible en France autour du dossier malien et de l'impasse dans laquelle se trouve ce pays au bout de 7 ans de guerre. Impasse sécuritaire et impasse aussi d'une politique de développement enlisée, Amélie, faute de gouvernance.
Merci Claude Guibal. Toujours plus grand, le photographe JR s'empare aujourd'hui de la pyramide du Louvre à Paris. Le monument célèbre ce week-end ses 30 ans et pour l'occasion, JR crée l'une de ses plus grandes fresques avec sa technique de pasting, le collage de photos tirées en affiche. Pour ce travail monumental, 400 bénévoles participent au chantier, suivi de près par Corinne Pellissier.
Deux écrans géants installés de part et d'autre de la pyramide permettent aux visiteurs de suivre en temps réel l'avancée des travaux. Pour répondre aux questions des plus curieux, des médiateurs et le directeur des relations extérieures du Louvre, Adel Ziyan.
Très régulièrement, les artistes sont intervenus. Et c'est vrai qu'avec JR, il y a une générosité dans ce projet. On le voit ce matin, c'est s'approprier la pyramide au sens le plus large. Et puis toujours être dans cette dimension, on va dire, participative.
Derrière le cordon de sécurité, une cinquantaine de bénévoles tous les jours sont à l'œuvre, munis de combinaisons de travail et de cutter, certains parfois venus de loin, comme Marie-Jou.
Je suis venue de Beyrouth, j'étais prête à faire le café, je voulais être N. Et du coup, pour l'instant, je coupe les posters, plus tard je collerai.
Coupé à gauche, cette fois-ci.
D'accord. Et le but, c'est de créer le plus grand pasting de l'histoire au Louvre.
L'atmosphère est studieuse et les bénévoles conscients de cette occasion unique de rencontrer leur idole. L'artiste JR, jamais avare en conseil, est très enthousiaste à l'idée de renouer avec ce monument qu'il connaît bien.
Donc là, on passe à la 36.
Comme il y a 3 ans, je l'avais fait disparaître, je me suis dit, je vais la faire apparaître. Qu'on suive le montage d'une œuvre qui imagine une pyramide complètement différente. Elle se voit que d'un point. C'est là tout le secret, il faut venir voir sur la place du Louvre.
2000 feuilles de papier ont été imprimées en vue de réaliser cette œuvre sur laquelle le public pourra marcher dès ce week-end. Le clou du spectacle ne sera lui visible que depuis les écrans géants.
À voir au Louvre ce week-end à Paris et à lire aussi l'interview de JR, comment il va faire apparaître la pyramide. C'est sur franceinter.fr.
Formidable, merci beaucoup Amélie Perrier.